Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les Bulles Nomades, le podcast créatif et slow. Je m'appelle Florie Vin, alias Floriteller, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui m'a longtemps inquiétée en tant qu'artiste et qui m'inquiète encore parfois pour être honnête, hein, qui est le sujet de l'inspiration et de comment est-ce que je m'approprie les inspirations dont je me nourris, les influences que je reçois en tant qu'artiste, sans devenir une copie de ces gens qui m'inspirent. Et en fait, j'avais ce sujet en brouillon dans mes idées de podcast depuis un moment, et le sujet est revenu sur le tapis et j'ai voulu vous en parler maintenant, parce qu'une de mes artistes préférées, qui s'appelle Caro Arévalo, j'adore son travail, je suis très très inspirée par son art en lui-même en fait, et les valeurs qu'elle véhicule, etc. Depuis que j'ai découvert il y a un an et demi maintenant, et en fait elle vient de lancer son Patreon, et ça m'a donné plein d'idées de choses à faire pour le mien, parce que je suis en train de revoir en fait en coulisses un peu avec les mécènes, je suis en train de revoir un peu les contreparties que je vais proposer sur Patreon, parce que je veux me présenter dans cet espace-là en tant qu'artiste, donc davantage partager des coulisses de mon art, partager des œuvres d'art, etc., etc. On en reparlera le moment venu de ça. Mais le fait est que du coup, le Patreon de Caro Arévalo, qui est une artiste qui m'inspire énormément, m'a donné beaucoup d'idées intéressantes. Et quand j'ai noté toutes les idées de contrepartie que je pourrais faire, je me suis dit, mince, mais je suis en train de la copier là, en fait. Comment est-ce que je peux m'approprier, en fait, elle, ce qu'elle fait avec son Patreon, à ma voix, mon style, mon art, le genre de contenu que j'aime créer aussi, mon énergie à moi, en fait, mes valeurs, ma vibe à moi. Enfin voilà, comment est-ce que je peux adapter toutes ces choses-là qui m'inspirent à qui je suis moi, en fait. Et je me souviens, c'est marrant, parce que je me souviens, je m'étais posé la même question avec cette même artiste à l'époque où j'ai découvert son art, parce qu'elle m'a vraiment beaucoup inspirée, et j'ai eu peur à un moment donné de me retrouver à copier son travail plutôt qu'à définir mon propre style artistique, en fait. Donc la question est la suivante, en fait. Lorsqu'on nourrit notre chaudron avec diverses inspirations, et ce, que vous soyez artiste vous-même, ou créatif, créative en général, artisan, artisane, etc., ou bien tout simplement que vous êtes dans un projet, que ce soit un loisir, ou que ce soit même dans votre travail, et que vous vous inspirez de différentes... comment font d'autres entrepreneurs, par exemple, si vous êtes entrepreneur, ce genre de choses-là. Bah, quand on pioche des inspirations comme ça, à droite et à gauche, pour nourrir nos idées, bah, à un moment donné, la question se pose de comment est-ce qu'on passe de la phase d'inspiration où on observe finalement ce que font les autres, à la phase de création où on s'approprie tout ça pour créer notre propre solution, notre propre œuvre, notre propre contenu, etc., etc. Mais sans que ce soit une copie de la voix VOIX, des idées, du style de quelqu'un d'autre, parce que de toute manière, je ne sais plus qui c'est qui disait la citation, ça ne sert à rien d'essayer d'être quelqu'un d'autre que soi-même, parce que tous les autres sont déjà pris, vous voyez. On fera jamais mieux que quelqu'un d'autre, son truc à lui, mais par contre, personne ne fera jamais mieux que nous, notre truc à nous. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais en gros, comment est-ce qu'on s'approprie ces inspirations-là pour les intégrer dans notre voix à nous, notre singularité à nous, notre approche à nous, et que ce ne soit pas juste une copie, mais même des conseils par exemple, que ce ne soit pas une copie de conseils qu'on calque comme ça sur notre façon de faire sans se l'approprier, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a la peur, en tout cas moi ce qui me concerne c'est beaucoup la peur de copier en fait, mais même sans faire exprès, de me retrouver à copier le travail de quelqu'un d'autre et qu'on voit trop l'influence de l'autre et que ce ne soit plus moi, mais ça peut aussi être le fait de trop calquer en fait l'inspiration ou les conseils de quelqu'un d'autre, ou la manière de faire de quelqu'un d'autre, que ce soit pas suffisamment adapté à qui on est, à notre manière de fonctionner, à nos valeurs, etc. Et que du coup, ça fonctionne pas pour nous, en fait. Voilà, donc, en d'autres termes, comment est-ce qu'on fait pour que notre projet, notre idée, nos solutions, notre œuvre reflètent notre singularité et notre fonctionnement et notre approche, etc., même si nos idées se composent de tout ce qui nous a inspiré, tout ce qui nous a influencé au fil du temps et qui, bah, du coup, ont été piochés parmi d'autres personnes. Et en fait, quand j'ai réfléchi à cette question-là, ça m'a rappelé une question que se posent certains débutants dans le monde de l'écriture de fiction. C'est une question que j'ai vue passer plusieurs fois dans les forums d'entraide entre auteurs et autrices, par exemple, ce genre d'endroit-là. des auteurs et autrices débutantes qui arrivent et qui demandent « Dois-je lire d'autres livres dans le même genre que j'écris ?» Ou bien « Est-ce que ça risque de m'influencer, de teinter ma voix singulière ?» Et que du coup, je vais me retrouver à copier ces livres d'autres personnes dans le même genre. Est-ce qu'il vaut mieux pas que je ne lise pas ? Par exemple, j'écris de la science-fiction. Est-ce qu'il vaut mieux pas que je ne lise pas de science-fiction du tout ? Parce que sinon, ça va m'influencer et je vais copier les idées des autres plutôt que de venir avec mes propres idées. Alors, il y en a qui arrivent en se posant la question et il y en a qui arrivent en disant « Je ne lis pas le même genre littéraire que moi parce que je ne veux pas être influencée. » Et je trouve cette question hyper intéressante. Et pour y répondre, en tout cas pour apporter mon opinion sur le sujet, même si j'en ai déjà parlé, je pense, au fil des années, mais évidemment que oui, un grand oui, il faut lire les auteurs et les autrices qui écrivent ou ont écrit dans le même genre littéraire ou les mêmes genres littéraires que ce qu'on écrit en tant qu'auteur ou autrice de fiction, dans ce cas-là. Et c'est pareil pour tous les arts et toutes les activités créatives. Personnellement, je suis plutôt d'avis qu'au contraire, il faut en lire plein, des classiques fondateurs aux interprétations plus modernes, des auteurs ultra connus, à d'autres qui sont plus confidentiels, plus niches, etc. Moi, je pense qu'il faut même lire, en dehors de notre genre de prédilection en tant qu'auteur et autrice de fiction, qu'il faut même s'inspirer d'autres genres artistiques, enfin d'autres formes artistiques que la littérature. Par exemple, je sais qu'en tant qu'autrice, moi je m'inspire énormément des films, des séries télé, des jeux vidéo, des choses comme ça. En fait, ça rejoint la théorie de l'écosystème, c'est-à-dire que en tant que, par exemple, autrice de science-fiction, je m'inscris dans un écosystème culturel du genre de la science-fiction et de tout ce qui a été fait avant moi et de tout ce qui est fait autour de moi maintenant. C'est-à-dire que les gens qui vont potentiellement lire mon livre de SF, ils ont potentiellement lu d'autres auteurs et autrices qui sont dans mon écosystème du genre de la SF. Et si je refuse de lire de la SF de peur d'être influencée, en fait je me coupe de mon propre écosystème culturel. Et contrairement à ce que ces fameux certains auteurs débutants semblent croire, c'est en ne lisant pas les œuvres des autres personnes que je risque de créer une œuvre qui est pauvre et qui est remplie de clichés. Parce qu'en fait, je vais essayer de réinventer la roue, alors que d'autres auteurs et autrices ont déjà exploré plein de façons d'aborder ce sujet-là. Et que si je les ai pas lus, je m'en rends pas compte, et je réinvente ce qui existe déjà. Et c'est là que ça crée des histoires qui sont pauvres, en fait. Quelque part, c'est comme si un chercheur scientifique refusait de se baser sur les recherches passées et présentes dans son domaine, et qu'il recommençait tous les protocoles à zéro, en fait, sans bénéficier de tout ce qu'ont découvert les autres chercheurs au fil du temps et sans bénéficier de tout ce qu'ont découvert les autres chercheurs contemporains, en fait, qui font de la recherche similaire à la sienne. C'est-à-dire que dans ces cas-là, le chercheur ou la chercheuse va réinventer ce qui a déjà été trouvé et les conclusions qui ont déjà été tirées par d'autres scientifiques il y a bien longtemps au lieu de construire quelque chose de nouveau à partir de ce qui existe déjà et qui a déjà été enrichi par plein d'autres êtres humains au fil des années, des décennies, des siècles. Moi, je pars du principe que quoi qu'on crée, quelle que soit notre forme de contribution en tant qu'être humain, que ce soit de la créativité pure, comme quand on écrit de la science-fiction, la recherche scientifique, qui est le deuxième exemple que j'ai donné, ou plein d'autres choses, on arrive sur un écosystème, sur une histoire, en fait, une culture qui a été enrichi au fil des années, des décennies, des siècles, des cultures, etc. par d'autres personnes, et que je trouve que c'est super dommage de pas s'appuyer dessus pour enrichir tout ça à notre tour avec notre voix. Sauf que pour pouvoir enrichir tout ça à notre tour avec notre voix, bah encore faut-il être conscient et consciente bah de ce qui existe et de ce que les autres ont trouvé jusque-là, en fait. Donc oui, je pense qu'il est indispensable de nourrir notre chaudron et de multiplier les inspirations, que vous soyez artiste ou pas, parce que ça ouvre l'esprit en fait, ça élargit la perspective et ça nous permet de bénéficier de tout ce qu'a créé cet écosystème culturel et humain jusque-là. Maintenant, ok, je suis une autrice de science-fiction et je lis plein de bouquins de science-fiction, je regarde des séries de science-fiction, je joue à des jeux vidéo de science-fiction, ok, mais à partir de là, qu'est-ce que j'apporte moi à cet écosystème quand je commence à créer mon propre projet à mon tour ? Qu'est-ce que mon livre de science-fiction va apporter au genre par rapport à tout ce que les personnes ont déjà lu jusque-là ? Et en fait, c'est une question qui se pose pour l'art, mais aussi, par exemple, quand on veut créer un podcast alors qu'il en existe déjà plein, quand on veut lancer une petite marque de produits artisanaux alors qu'il y en a déjà plein de marques qui vendent des produits similaires, quand on veut lancer des services alors qu'il en existe déjà plein, etc., etc. En d'autres termes, là, on se pose la question de qu'est-ce qui fait notre singularité ? C'est-à-dire quand je regarde tout ce que font les autres et que je veux m'en inspirer pour créer mon truc, ok, très bien, mais comment est-ce que mon travail est davantage que la somme de ces inspirations du travail des autres, en fait ? Quel est mon apport à moi dans tout ça ? Et ça, c'est un problème qui est beaucoup rencontré avec des profils assez atypiques du genre multipotentiel, comme c'est mon cas, c'est-à-dire des gens qui ont plein de passions différentes et qu'on pousse pas forcément aussi loin que quelqu'un qui serait mono-projet ou mono-spécialité et où du coup, bah, on a un petit peu de mal à savoir dans quelle case rentrer, on a un petit peu de mal à savoir comment se définir et on a un peu plus de mal à avoir notre valeur ajoutée parce que on va poursuivre plusieurs projets, plusieurs, dans mon cas, je poursuis plusieurs pratiques créatives, plusieurs arts. Bah, du coup, j'ai moins de temps à consacrer à chacun de ces arts-là. Et du coup, mon expertise, elle est moins pointue. Et j'accomplis moins de choses dans chacun de ces arts qu'un artiste ou une artiste qui ne fait que cet art-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, il y a un petit peu la question, bah, déjà que je divise un peu mon énergie entre plein de projets et de techniques différentes, comment est-ce que je vais créer ma singularité par rapport à quelqu'un qui va se donner à fond dans un seul projet ? Elle est où ma valeur ajoutée si je peux pas approfondir autant que quelqu'un d'autre ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est aussi une question que je me suis longtemps posée, que je me pose encore parfois aujourd'hui, et qui peut créer, entre guillemets, des croyances limitantes ou des blocages en fait qui m'empêchent d'avancer en tant qu'artiste, parce que je me dis à quoi bon, je suis en train de refaire le niveau débutant de plein d'autres artistes qui, eux, n'ont que cet art-là au lieu d'en avoir 50, quoi, voyez. Et là, on en revient à cette même question. Qu'est-ce qui fait ma singularité ? Et sous-entendu, une singularité qui intéresse les autres, comment est-ce que je contribue à ce fameux écosystème culturel et humain, à mon niveau, avec ma voix singulière ? Et pour explorer les réponses possibles à cette question, j'ai envie de vous partager une très chouette métaphore qui est proposée par Idriss Aberkham dans une interview qu'il a donnée pour le podcast Cameo, K-M-E-O, si vous voulez aller voir, c'est un podcast autour de la question des multipotentiels, justement. Et donc, Idriss Aberkham a été invité dans un des épisodes de ce podcast. Et il a proposé la métaphore suivante. Imaginez que chacune de vos inspirations, vos influences, vos centres d'intérêt, chaque élément qui attise votre curiosité et que vous allez intégrer dans votre chaudron, en lisant, en regardant, en écoutant des trucs, en apprenant des choses, etc., etc. Imaginons que chacune de ces choses-là soit une gemme, une pierre taillée ou une perle. Et donc on se retrouve avec tout un tas de gemmes, de perles, de pierres, etc. devant nous, qui sont toutes les inspirations qu'on a collectées au fil du temps. Et en gros, ce qui fait qu'on va s'approprier cette inspiration, c'est la manière dont on va monter ces gemmes entre elles pour en faire un collier unique qui ne ressemble au collier de personne d'autre. Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Je produis ce podcast sur mon temps et mes deniers personnels et je tiens à ce qu'il reste sans pub. Vous pouvez me soutenir pour le prix d'un café sur patreon.com/floriteller. Les paliers voyageurs et plus ont également accès au script des bulles nomades préparées à l'avance en PDF. Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui le font déjà. La création, c'est de monter ces gemmes, monter toutes ces inspirations dans un collier unique qui va être notre œuvre, notre projet, nos solutions créatives, nos divers projets qui se nourrissent les uns les autres, qui va être vraiment notre... Ça peut être notre carrière, ça peut être notre marque, ça peut être notre édifice créatif, notre œuvre, etc., etc. Donc si on en revient à cette métaphore joaillière, tous les colliers contiennent des métaux et des gemmes qui existent dans la nature. Ça va être de l'or, de l'argent, du diamant, des grenats, des émeraudes, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est toujours les mêmes matériaux qui existent autour de nous. Et du coup, ce qui fait la singularité des bijoux, des joailliers, c'est leur manière de tailler et d'assembler ces pierres entre elles. Je me souviens qu'il y a quelques années, je suis allée voir avec ma copine bijoutière une exposition de la marque Van Cleef & Arpels au musée des arts décoratifs. Et c'était un truc. Elle était absolument magnifique, cette expo, parce que c'était. Il y avait tous les joyaux de la couronne, les parures de stars, etc., que Van Cleef & Arpels avaient créés au cours du XXe siècle. Je me rappelle d'un collier en forme de phénix avec la queue en rubis. Enfin, c'est absolument magnifique, vraiment des œuvres d'art. Et du coup, pour faire cette métaphore, c'est. Bah, vous, dans votre projet, comment est-ce que vous allez sélectionner parmi vos inspirations quelles pierres vont aller entre elles, dans quel ordre vous allez les monter, avec quel métal, etc. Donc voilà, j'ai envie de vous inviter à voir ce passage de l'appropriation de l'inspiration en votre création personnelle, comme le fait de prendre des pierres brutes et de les monter en collier. Tous les matériaux existent déjà, mais c'est vous qui choisissez comment vous les aménagez en fait, comment vous les assemblez entre eux. Et en fait, c'est là que vous utilisez votre créativité. Non pas pour essayer de fabriquer des pierres ou de trouver une pierre qui n'existe sur aucun collier jamais vu par personne, parce que ça, c'est pas possible. Les idées sortent pas de nulle part, en fait. Elles sortent forcément de quelque part. Mais plutôt, la créativité, ça va être de se dire, ok, parmi toutes les pierres que j'ai devant moi, je choisis lesquelles et je les assemble comment. Et en fait, c'est pas très grave. Si dans votre collier, les gens reconnaissent un diamant qu'ils ont déjà vu ailleurs. Par exemple, c'est pas grave d'écrire de la fantaisie avec des elfes et des nains dedans. C'est vraiment le diamant de la fantaisie parce qu'il y en a partout. En tout cas, en Europe occidentale, c'est vraiment le classique de la fantaisie. Et c'est pas ça qui va faire la singularité de votre livre de fantaisie en soi. Et c'est pas grave s'il y a des nains et des elfes dedans. Ce qui va faire la singularité de votre histoire, c'est toutes les autres gemmes que vous aurez choisies pour entourer ce diamant. Issu par exemple, là dans le cas d'une histoire de fantasy, ça peut être issu d'autres lectures, mais aussi de séries, de films, de jeux vidéo, ou de centres d'intérêt qui n'ont rien à voir, de choses qui vous ont inspiré dans l'histoire, dans les cultures d'autres pays que vous avez vus en voyageant, ou peut-être des concepts ramenés de disciplines qui n'ont rien à voir, comme par exemple la botanique, et qui va vous donner une idée de race de fantasy basée sur les plantes, qui est autre que les elfes et les nains, ou que vous allez complètement changer, mettons, les caractéristiques des elfes qui sont dans la forêt parce que vous avez été inspiré d'un truc de botanique que vous avez lu qui n'a rien à voir avec la fantaisie, mais que vous allez venir associer dans votre histoire. Et c'est cette association-là, cet ensemble-là, qui fait que votre histoire va être singulière. C'est pas le fait d'essayer d'éviter à tout prix de mettre un diamant dans votre collier qui va le rendre singulier. C'est comment vous allez le tailler, ce diamant, et de quoi vous allez l'entourer. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes obligé de mettre des elfes et des nains quand vous écrivez un livre de fantasy, hein, c'est juste un exemple. Donc en tant qu'artiste ou en tant que personne créative en général, ce qui fait la singularité de nos créations, que ce soit des œuvres artistiques, des produits ou autres, ça va être le choix des inspirations qu'on sélectionne et la manière dont on leur donne du sens en les associant les unes avec les autres. Et en tant que multipotentiel, et je crois me souvenir que c'est en plus dans l'optique des multipotentiels qu'Idrissa Aberkham donnait cette métaphore du collier, ça veut dire qu'avec nos multiples centres d'intérêt, un collier fait uniquement de diamants, ça nous emmerde, et qu'on préfère créer un collier qui va associer les couleurs, peut-être même qu'on va mélanger des pierres et des perles, peut-être même qu'on va mélanger de l'argent et de l'or. On va vouloir créer un collier avec plein 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 de matériaux différents plutôt que d'avoir un collier avec uniquement de l'or et des diamants, par exemple. Et voyez, par exemple, j'ai parfois des doutes encore aujourd'hui hein, quand je vois mes copains-copines autrices qui ne font que écrire, c'est leur seul art, dans le sens où tout leur temps de création est passé à préparer, écrire, corriger leurs histoires ou relire les histoires d'autres personnes, etc., ou à apprendre des choses sur l'écriture. Ça fait partie de l'écosystème créatif de l'artiste, hein. Et je les vois créer du coup plusieurs histoires par an, soumettre des nouvelles à des appels à texte, publier des romans à compte d'éditeur, auto-publier des choses à côté en plus, etc. Alors que moi, comme mon temps de création est réparti entre l'écriture de fiction, mais aussi la poésie, les essais créatifs et les listes, la peinture à l'encre, à l'aquarelle, les projets hybrides comme les 24 saisons ou le zine printanier qui est sorti la semaine dernière, et bah du coup, comme je m'éparpille dans tous les sens, je ne produis pas autant de livres que ces personnes-là. Et je progresse plus lentement aussi, puisque j'en écris moins. Et je me dis parfois que je m'éparpille avec toutes ces créations et que je ne peux pas développer mes compétences de manière aussi pointue que les auteurs et autrices qui ne pratiquent que l'écriture. Mais en même temps, un collier de diamants où chaque pierre n'est que l'écriture de fiction, et ben ça m'ennuierait profondément en tant qu'artiste. Si je ne faisais que écrire de la fiction et que je mettais de côté tous mes autres arts, je me ferais chier comme un rat mort. J'ai besoin de cette variété. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est cette variété-là qui fait ma singularité. C'est-à-dire que je peux créer des nouvelles illustrées. Je peux créer le carnet illustré d'enquête, en fait, le carnet de notes de mon enquêtrice qui va avec mon roman d'enquête, par exemple. Je peux proposer des haïkus illustrés. Je peux proposer un zine, un webzine PDF autour du printemps, comme ce que j'ai fait la semaine dernière. Voilà, je peux proposer plein de choses multidisciplinaires que un ou une écrivaine seule ne peut pas proposer. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire de trucs multidisciplinaires, ça veut juste dire qu'il faut qu'ils s'associent avec un autre artiste. Mais voilà, il y a des avantages à être monotâche et à ne faire que écrire parce qu'ils vont améliorer leur plume et proposer plus de choses, etc. Mais il y a aussi des avantages et une singularité à multiplier les arts et à diversifier les choses. Entre le collier de diamants et le collier avec 5 pierres différentes, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Les deux sont singuliers à leur manière. Et moi, en tant que personne plurielle, ça sert à rien d'essayer de faire un collier de diamants parce que ça va m'emmerder, il va pas être réussi parce que c'est pas mon truc, c'est pas ma voix. Et du coup, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait l'unité de ce collier qui contient 50 000 pierres différentes ou les différents colliers que vous faites au fil de vos projets, etc. Ben, le lien entre tout ça, ce qui unit les différentes pierres, ces différentes inspirations et qui en font un collier, c'est votre singularité, c'est votre voix, que vous soyez multipotentiel ou pas. C'est-à-dire que les pierres sont serties sur une base en métal qui est vous, votre goût, votre choix d'inspiration et votre choix d'association des choses, en fait. Les perles sont enfilées sur un fil qui est vous, votre sensibilité, votre identité, vos choix, vos compétences, votre expérience, votre sensibilité, votre âme d'être humain, en fait. Et du coup, c'est à vous de choisir, en tant qu'artiste, en tant que personne créative ou porteuse de projet, combien de gemmes vous voulez utiliser et lesquelles vous avez envie de mettre dans votre collier. C'est votre choix, en fait. Sauf que votre collier va pouvoir refléter qui vous êtes si vous avez le choix entre beaucoup de perles. Plus vous avez de choix, en fait, de perles et de pierres et de choses comme ça, plus ça va vous donner d'idées pour faire un collier qui est personnel et singulier, en fait. D'où l'importance de multiplier les inspirations. Voilà, c'était ça un petit peu le message que je voulais vous faire passer finalement avec ce podcast d'aujourd'hui sur l'idée de s'approprier l'inspiration. C'est ne vous interdisez pas de regarder ce que font des personnes qui font des choses très similaires à vous. Au contraire, n'ayez pas peur de vous en inspirer. Et c'est le fait de multiplier les sources d'inspiration qui vont faire que vous n'allez pas copier cette personne. Parce que vous allez prendre certaines pierres de leur collier, mais vous allez prendre des pierres de collier d'autres personnes, vous allez les assembler à votre manière, et au final, ça va être votre travail à vous. Je vais terminer en vous donnant deux exemples concrets, parce que c'est une histoire de métaphore, de gemmes, de pierres, de collier, c'est peut-être un petit peu abstrait. Donc deux exemples concrets issus de mes créations. Premier exemple, côté fiction. La dernière novella que j'ai publiée dans la collection Café Lité de la boutique, qui s'appelle Rageux, première aventure de l'archipel des brumes, c'est une histoire qu'on pourrait qualifier de science-fantasy, c'est-à-dire un mélange de science-fiction et de fantasy. Il n'y a pas d'elfes ni de nains dedans. Par contre, il y a des éléments de science-fiction type post-apocalyptique, c'est-à-dire les ruines d'une civilisation, d'une technologie que les gens d'aujourd'hui ne comprennent plus. Il y a des villes un peu multiformes, avec des ruines antiques, des choses plus récentes recréées par la nouvelle génération, des inspirations un petit peu steampunk, victorien, machine à vapeur, etc. Il y a de la SF un peu rétro-futuriste, avec des vaisseaux solaires en bois, des villes en métal. Et de l'autre, il y a une histoire de traque de monstres contaminés par des éclats magiques. Il y a des armées qui se battent à l'épée, des montures qui sont des sortes d'autruches, tout à fait inspiré des chocobos de Final Fantasy, si vous connaissez cette série de jeux vidéo. Il y a des personnages qui pratiquent de la magie. Et tous ces trucs-là, ça fait plutôt penser à de la fantasy. donc à du médiéval fantastique plutôt qu'à de la science-fiction. Et quand je regarde mes inspirations pour cette histoire-là, il y a donc tout ce qui est un petit peu révolution industrielle, victorien, etc. Il y a une forte inspiration de la série The Witcher, créée par Andrzej Sapkowski, qui est pour le coup très fantasy, avec le chasseur de... Enfin, la traqueuse de monstres, c'est clairement inspiré de The Witcher. Il y a aussi une inspiration du manga Inuyasha, où là, on est dans de la fantasy japonaise, avec des histoires d'échardes dans des esprits qui les corrompent, où là, on est plus dans les légendes et folklore japonais. Comme je vous dis, il y a une inspiration du jeu vidéo Final Fantasy. Enfin, j'ai vraiment pris des inspirations à droite et à gauche, et du coup, ça donne un truc... comme je vous ai un collier avec plein de pierres différentes, parce que j'aime bien multiplier les inspirations, et ça en fait quelque chose de tout à fait unique. Et c'est l'assemblage, en fait j'ai rien inventé de nouveau, mais c'est l'assemblage qui n'appartient qu'à moi, quelque part. Deuxième exemple côté multipotentiel et comment je partage ces différentes passions, c'est tous les contenus que je crée sous l'alias Floriteller, qui est un jeu de mots avec Storyteller, qui veut dire conteuse d'histoire en anglais. Donc là, par exemple, dans ce podcast, si j'avais lancé un podcast d'écrivain, et y en a des auteurs et des autrices qui lancent des podcasts, parce que, en général, on aime bien raconter des histoires, et le format audio, c'est un format qui s'y prête bien, et j'aurais très bien pu choisir d'avoir des contenus de type conseils d'écriture, mes inspirations d'écriture, littérature, vraiment rester sur le sujet de l'écriture et de la littérature, et il y a des podcasts très bien sur ce sujet-là qui sont top et dont je m'inspire. Et il n'y a pas de mal à être mono-sujet sur un podcast, sauf que je ne suis pas que écrivaine et je ne m'intéresse pas que à l'écriture et à la littérature. Mais j'ai choisi de créer un collier multicolore avec les contenus de Floriteller. C'est-à-dire que je vous parle de philosophie de vie, de simplicité, de mes coulisses d'artiste, d'écriture et d'aquarelle, d'inspiration, de mon organisation en tant qu'indépendante, de mon état d'esprit, de ma vision du monde, des concepts qui attisent ma curiosité... de ralentir et de profiter de la vie, de slow, de choses comme ça. Et ça, c'est un choix que j'ai fait, en fait, de vous partager toute ma pluralité à travers mes contenus, plutôt que de choisir un canal et de parler d'un seul sujet. Alors, du coup, j'ai une audience qui est un petit peu moindre, parce que les gens savent pas trop ce qu'ils vont trouver chez moi. C'est beaucoup plus simple de s'abonner à un Instagram d'illustration, parce qu'on sait qu'on va y trouver uniquement des aquarelles, que de s'abonner à un Instagram où il y a plein de trucs différents, il y a des poèmes, il y a des aquarelles, il y a des photos de plantes, voilà. Mais c'est quelque chose qui me reflète moi et que je prends beaucoup plus plaisir à animer en fait. Et qui est beaucoup plus que je me suis vraiment appropriée, où c'est vraiment ma voix à moi en fait. Ma singularité, elle ressort bien. Voilà donc deux exemples concrets de ce que je voulais vous dire avec cette métaphore des gemmes et des colliers que j'ai entendu pour rappel dans la bouche d'Idriss Aberkam sur le podcast Cameo. Et je vous conseille vivement d'aller écouter cet épisode de podcast avec son interview si vous le retrouvez, parce qu'il est vraiment, vraiment passionnant, il en parle très très bien, probablement mieux que moi. Il y a plein de gemmes à aller y piocher. Voilà, si vous avez des questions, des idées ou des ressources à partager autour de tout ça, vous pouvez le faire en laissant un commentaire sous les notes de l'émission sur floriteller.com/BN154 pour le bénéfice de tous les auditeurs et auditrices. Vous pouvez le faire en privé via floriteller.com/contact. En attendant, merci infiniment d'avoir écouté cette bulle de mail jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et des vôtres, et à la prochaine!